France Inter.
Si je vous dis cocotier, pensez à quoi ?
Un coco, tropique.
Bravo, gagné. Pour vous, ça sera la Guyane.
CO2, mon amour.
La Guyane, c'est bien.
C'est-à-dire, c'est la jungle. Hein.
Au ministère aussi, c'est la jungle.
Denis Chessou.
Vous aurez la responsabilité de poser la première pierre du chantier guyanais.
Guyanais.
Nous allons construire la première station de ski indoor en Amazonie à neige artificielle.
Sur France Inter.
Mais oui, il y a plein d'excellentes idées. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, et l'eau en particulier, avec aujourd'hui Mélissa Etroit à la technique, et Camille Blanès est notre collaboratrice, et cette semaine, c'est Anaïs Reynard qui réalise l'émission. Belém, novembre 2025. Les cyclones, tempêtes, sécheresses, submersions, méga-feux regardaient par-dessus l'épaule des réassureurs et écoutaient les discussions entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Entre les écologistes, pétroliers, nucléocrates, amis du vent, du solaire, entre les fins de mois, les fins du monde, les crèves la faim tout court, les réchauffeurs, les scientifiques, les ONG, les utopistes, les coupeurs de forêt, les persuadés que la Terre est plate. « Oh, ben on sera tranquille encore un bout de temps », dit le cyclone américain en trinquant avec le typhon asiatique. « Encore 1,2% d'augmentation mondiale de gaz à effet de serre en 2024, bravo. » Vous savez, nous la géopolitique, on l'a fait dans le ciel, à 400 km au-dessus de vous. « Ah ben oui, et puis moi je vais pouvoir inonder encore quelques siècles, hein. Ils négligent leur sol et construisent partout. » Oh, pas besoin de boîte d'allumettes pour me faire partir, dit le chef des incendies. Il débroussaille à peine et assèche leur sol dans toute la matière combustible qui est dessus. Tu sais, avant tout, c'est leur arrogance, leur fracture avec la nature qui leur incendie le cerveau. Oui, sauf les peuples premiers, les minoritaires, les résistants, restés en lien avec la Pachamama. Eux, ils savent le ciel, la terre, les bêtes, les mers, ils savent qu'ils ne sont qu'un. Ah, et puis Trump, ah, formidable, il nous donne sa béquille d'or noir 10 fois par jour. Comprenez par là qu'on aura plus de chaleur, des mers plus chaudes, donc plus d'énergie à notre disposition, et plus fortes seront nos colonnes d'eau, nos hurricanes, nos possibilités de destruction. Eh ben non, ça tombe pas du ciel, c'est vous qui alimentez nos forces. Et puis en plus, dans certains cas, vous avez de très bons CNews en désinformation climatique. Alors certes, les humains, vous faites des efforts, enfin certains, vous tentez de diminuer vos consommations, vous développez des énergies renouvelables, vous électrifiez, bon d'accord, en laissant d'ailleurs bon, les déchets nucléaires sur des milliers d'années aux générations futures et en fabriquant de super EPR Flamanville à 23 milliards d'euros. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux dans le monde à vouloir consommer les mêmes cochonneries fabriquées au charbon et vendues par vos algorithmes de l'enfer, eh bien vous nous chouchoutez. Et des glaciers ne resteront que des glaçons. Ah, dis donc ! Et puis vous avez vu, en pleine COP30, l'Union des droites et extrêmes droites vote la destruction du droit européen et du Green Deal, donc une dérégulation admirable des règles sociales et environnementales européennes. Ah ouais. Ah, puis très important, on ne doit jamais toucher aux riches qui réchauffent et polluent le plus vos pays. Vous suffoquerez de désir et trierez les personnes âgées à l'entrée de vos hôpitaux au manque de moyens. Voilà. Mais, si vous réalisez que le climat, l'eau, les sols, les forêts, les océans sont des biens communs, alors là, il y a des possibilités. Ça, c'est vrai, de l'inattendu. Mettez-vous d'accord. De son œil, le Très-Haut, le cyclone, regardait Belém. Allez, avant que votre cerveau ne soit totalement bouffé par les IA et ne bouffe vos élections et vos démocraties, on vous laisse encore quelques chances. Il y a des humains très bien et plein d'enfants géniaux qui seront moins bornés que leurs décideurs. Alors là, regardez la bande de moineaux piaillant dans la flaque de pluie ou de chaleur. En novembre, sur l'hémisphère nord, les feuilles se détachent, se décomposent, fabriqueront de la terre jolie. Alors t'en fais pas, petite fille, petit bonhomme. Les bourgeons préparent déjà le printemps de ta vie.
Medalla olímpica de oro al más cabrón. Tiene 14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad.
La perle, mais quelle merveille cette Rosalia choisie et juste titre par Valentine Chédebois. Alors soigner l'eau est incontournable et pourtant 40% seulement de l'eau en France est en bon état. Alors depuis les années 60 quand même, la France a fait des progrès gigantesques en matière de potabilisation, d'assainissement avec les 6 agences de l'eau. Donc la France a fait le job, mais coulant du robinet, devenant invisible avec de plus en plus d'usages, eh ben l'eau n'a peut-être pas la même valeur et le regard s'en est détourné. Été 22, prise de conscience accélérée sur la rareté. L'eau est devenue quand même le premier marqueur visible pour les gens du dérèglement climatique. Donc il faut en prendre charge localement, veiller à la quantité, à la qualité, et c'est ce que font fort heureusement mais des centaines de collectivités, petites ou grandes. L'eau par nature est décentralisée. Je vais vous donner donc 4 exemples de collectivités. Nous partirons dans le Finistère à Tréguin, mais là tout de suite, on va aller dans l'agglomération Seine-Eure, à 115 km de Paris, région Normandie. Comment avoir de l'eau propre à la source? Le président, c'est Bernard Leroy. Yann Le Fur est en charge de l'eau à l'agglomération Seine-Eure. Nous sommes dans les Hauts-Prés, à côté de Louviers.
Nous sommes sur le périmètre de protection d'un captage qui se situe à peu près à 500 mètres, là-bas, derrière les arbres. Ouais. Et ce champ captant, où il y a 5 forages, alimente 40 000 habitants. C'est-à-dire 40% de notre agglomération.
Oui, parce qu'il y a 105 000 habitants. Donc,
tout à fait. Ouais. Et il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, les élus ont pris la décision d'acquérir les 110 hectares qui sont devant nous, donc les 30 premiers que l'on voit là, qui sont dédiés au maraîchage, et derrière 80 qui sont dédiés aux céréales.
Ouais, donc évidemment aussi du maraîchage bio. Hein.
Toute cette activité est biologique. Ouais. Et l'idée était de maîtriser toutes les activités qui avaient lieu sur ce champ captant. Et aujourd'hui, les résultats sont là, c'est-à-dire qu'on a une eau de très très bonne qualité. En plus de cette activité agricole, il y avait une usine qui est derrière nous. Mmh. Et dans cette usine, il y avait un fabricant de fûts qui travaillait pour la pétrochimie.
Ah oui.
Bien éloigné quand même des activités bio. Et ce qui a été fait, c'est que nous avons racheté ce bâtiment quand l'entreprise a fermé. Et nous avons converti ce bâtiment intégralement sous des activités bio. Et les 60 personnes qui fabriquaient des fûts ont été remplacées par à peu près 60 personnes qui fabriquent de la bière, qui fabriquent des plats préparés bio. On a une société qui, à partir de vers de terre, fabrique un engrais bio. Ouais. 25 millions de vers de terre qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et puis sans préavis de grève. Hein.
Sans préavis de grève, ils sont
impeccables.
Impeccables. Donc le point de départ de toute cette réflexion, c'est bien la protection de la ressource en eau.
Tiens, il pleut flic-flac, flic-flac, une heure, il pleut flic-flac, flic-flac, deux heures, il pleut flic-flac, flic-flac, trois heures, il pleut flic-flac, flic-flac, quatre heures, il pleut flic-flac, flic-flac, cinq heures, il pleut flic-flac, flic-flac, six heures, il pleut flic-flac, flic-flac.
L'eau est au cœur de votre gouvernance, c'est-à-dire vous êtes dit, il vaut mieux faire du préventif que du curatif.
Bah, tout à fait. Et quand on voit les problématiques eau que l'on rencontre en 2024 avec les métabolites issus de pesticides, on se dit que le choix des élus, alors je peux en parler librement parce que je n'étais pas élu à ce moment-là, mais les élus qui ont fait ce choix-là ont été très très inspirés. Donc on a pour les 104 000 habitants, donc ici ce forage, on a la chance aussi à Pont-de-l'Arche d'avoir un forage en pleine forêt qui n'a jamais vu de pesticides et un autre du côté de Gaillon qui, pareil, est en lisière de forêt qui n'a jamais vu de pesticides. Donc on se retrouve, malgré les nouvelles contraintes sur le chloridazone et le chlorothalonil, à avoir une eau conforme aux exigences de l'ARS.
Alors dans votre affaire, il y a quand même aussi, Yann Le Fur, un sacré avantage. c'est peut-être le prix de l'eau.
Concrètement, à partir du moment où on protège la ressource, on n'a pas besoin de réaliser des traitements lourds pour rendre l'eau conforme. Donc concrètement, aujourd'hui, on a une des eaux les moins chères du département de l'Eure. On a donc une eau en quantité, parce qu'on est proche de la Seine, et au niveau qualité, on a l'ensemble de nos forages qui sont conformes aujourd'hui aux préconisations de l'ARS. Donc effectivement, l'eau assainie aujourd'hui, on se situe aux alentours de 4,50 €, ce qui reste un prix très très raisonnable par rapport à ce que l'on peut voir dans certains territoires.
Parce que vous n'aviez pas prévu, hein, c'est ce côté vraiment circuit court, les emplois, création donc de nouvelles entreprises.
Alors quand le bâtiment a été racheté, il y avait cette volonté de recréer de l'emploi.
Ouais,
mais c'est vrai qu'on a été surpris de voir qu'un brasseur est venu s'installer.
Au milieu du domaine des Hauts-Prés de Val-de-Reuil, une équipe de brasseurs hors pair concocte des bières issues de l'agriculture biologique. La brasserie produit désormais plus de 35 000 litres de bière chaque mois. Une production artisanale et biologique qui s'inscrit dans le terroir de Val-de-Reuil.
Comme il y avait le brasseur, un houblonnier est venu s'installer et à terme fournira 50% du houblon à la brasserie.
Ah oui, donc il n'a pas l'acheté au Canada ou aux États-Unis.
Tout à fait. Et une association de réinsertion est venue s'installer, Idée Vert, dont l'objectif est de recycler du verre. Et donc la brasserie ramène chez Idée Vert ses bouteilles qu'il récupère chez ses clients. Elles sont nettoyées ici, elles sont réutilisées. Donc cette notion de circuit court, c'est vraiment un plus qui est arrivé au niveau du projet et qui nous fait extrêmement plaisir.
Alors est-ce que les habitants sont quand même bien conscients de tout ça? C'est-à-dire que là, c'est au niveau d'une aglo, donc vous avez des moyens, vous avez de l'ingénierie, mais bon, là, je vais presque dire que c'est de l'ingénierie naturelle, hein, ce que vous faites là, vous n'avez plus besoin d'y toucher, quoi, ça tourne tout seul. Mais est-ce que les gens sont conscients de ça?
Pas sûr que sur l'ensemble du territoire, les gens soient conscients. La brasserie nous fait quand même beaucoup de pubs, parce qu'ils ont une soirée d'animation où il y a beaucoup de monde qui vient, c'est à peu près 400 personnes parfois. Donc les habitants de Louviers, Val-de-Reuil connaissent bien ce...
Et grâce à la bière, ils vont s'informer sur l'eau.
Tout à fait. Et évidemment, quand nous sommes avec l'ensemble des maires, les maires sont parfaitement conscients. Il y a 60 communes au niveau de l'agglomération. Les maires sont parfaitement conscients de la politique qui est la nôtre en matière de préservation de la ressource. Ils sont bien contents que leurs habitants ne payent pas l'eau aussi cher que si on n'avait pas eu cette politique-là il y a une quinzaine d'années.
Bon, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter sur ce territoire, Yann ?
De poursuivre ce travail avec les maraîchers, d'étendre, parce que le périmètre des 110 hectares ne couvre pas tout à fait l'ensemble du périmètre de protection des captages. Donc si on peut acquérir ces terrains qui sont sur notre droite, on en aura la maîtrise foncière, même si on travaille bien sûr avec les agriculteurs qui sont dessus, et continuer sur les autres forages à bien maîtriser l'ensemble des activités agricoles qui ont lieu sur les périmètres de protection.
Travail donc de l'agglomération Seine-Eure avec Yann Le Fur, son équipe, et aussi quand même l'aide financière de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Quand même, alors, juste rappeler qu'il y a quand même 140 ans, Munich, une toute petite commune de Bavière, donc est approvisionnée en eau potable grâce à une forêt qu'elle gère de manière écologique. Ce sont vraiment les ancêtres de cette affaire-là. Et ça marche très très bien. Oh, j'entends des drisses, ça sent la Bretagne. Alors là, vous avez un merveilleux petit son, ce ne sont pas des oiseaux, non, ce sont les bateaux. Oui, bien sûr, ce sont les drisses, nous sommes en Bretagne, nous sommes dans le Finistère. Et là, je vais me tourner vers Olivier Bellec. Bonjour Olivier.
Bonjour Denis. Alors, cher Denis, nous sommes ici à Pouldohan, Port-Saint-Alène, sur la commune de Tréguin.
Ouais.
Et là, effectivement, on a un cadre magnifique, avec en face de nous le Minaouet. Et là, c'est les grandes marées, donc c'est un paysage magnifique, sous un très beau soleil.
Parce que vous êtes le premier magistrat, évidemment, de cette commune, Olivier Bellec, donc 7200-300 habitants.
C'est ça.
Donc la mer, évidemment, elle n'est pas loin. Évidemment que la notion de qualité d'eau, elle est extrêmement importante. Alors qu'est-ce que l'on fait ici?
Alors elle est importante, et puis alors oui, 7300 habitants, et l'été, eh bien, la population est multipliée par quasiment 3,5. Donc au niveau de l'agglomération, eh bien, nous avons mis un plan directeur en place, c'est de l'ordre de plus de 80 millions d'euros et donc c'est un schéma qui va jusqu'en 2035 et l'ambition bien évidemment c'est de refaire tous les réseaux.
Donc, d'éviter les fuites.
Éviter les fuites.
Vous avez des réseaux qui ont quoi, 50, 80 ans?
Ouais, c'est ça. Donc ils sont vraiment très vieillissants. Et donc ça passe par des travaux importants. Alors c'est vrai que la population, des fois, ben, ils ne se rendent pas compte que ce qui est sous nos pieds, eh bien, c'est vraiment très très important. Donc il faut renouveler ces réseaux.
Commencez les travaux! Les travaux, il faut commencer, quoi!
Les travaux sont commencés!
Encore regarder!
Et quand les travaux sont commencés?
Alors on saigne.
Et donc, comme vous parliez de la qualité des eaux, c'est aussi le plan de lutte contre les algues vertes. Et ça, c'est un travail qui a démarré dans les années 2000. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup moins d'algues vertes dans notre baie de Concarneau ou la baie de Fouesnant.
Mais le travail que vous effectuez avec les agriculteurs, comment vous faites? Comment vous les accompagnez?
C'est un travail, en effet, de collaboration avec les agriculteurs. Et d'ailleurs, ça marche vraiment bien. Ça a démarré depuis les années 2000. Et on voit que sur le tonnage d'algues vertes, eh bien de 2000, on va dire dans les années 2010, il y avait à peu près 12 000 tonnes d'algues vertes. Et aujourd'hui, on arrive à peine 100 tonnes. Et donc, il y a vraiment un accompagnement financier, puisque c'est important d'accompagner financièrement les agriculteurs, par aussi des changements de pratiques. Et justement, ce travail dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes, c'est avancer avec les agriculteurs, travailler main dans la main et surtout ne pas leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ouais. C'est ensemble qu'on arrivera à mener ce travail. Et ça, justement, c'est bon pour la qualité de nos eaux.
Alors là, au loin, je vois quand même des enfants. Ça vous est aussi extrêmement cher. Vous n'êtes pas les seuls à le faire, mais vous avez des aires éducatives. Des aires éducatives forestières, des aires éducatives sur le littoral, comment vous appelez?
C'est ça. Et bien, en fait, depuis déjà quelques années, nous avons donc deux aires éducatives. Donc, une aire terrestre éducative, ouais, pour l'école du centre-bourg, Marc Bourris, et une aire éducative maritime pour les élèves de l'école de René Daniel Saint-Philibert.
Donc, on sort les gamins. Venez, on va prendre l'air.
Ils vont sur le terrain et ils font de la pédagogie. Donc, il y a les enseignants, il y a les associations environnementales, notamment Esprit Nature, ici, à Tréguin. Tout ça, c'est en lien aussi avec l'Office français de la biodiversité, l'OSB. Et donc là, c'est sensibiliser les enfants, justement, à ce que nous avons devant nous, là, entre la mer et, je dirais, la forêt.
Et ce qui est formidable, c'est qu'eux-mêmes vont être pédagogues avec leurs parents.
Hein. Exactement. Après, ils pourront dire aux parents, tiens, viens sur la plage, tu vas voir, il y a un peu de quartz, il y a un peu de ceci, un peu de cela. Donc, c'est tout ça qui fait que, oui, ça donne envie aux enfants et puis après, aux parents aussi de suivre.
Olivier Bélec, on m'a dit que vous n'aimiez pas forcément les tomates.
Alors, j'aime bien les tomates, mais il faut faire attention lorsque c'est vraiment industrialisé à mort, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans de ça, il y a eu un projet de création de serre sur la commune de Concarneau. Et en tant que président d'Aglo, j'ai pris position contre ce projet, puisque sur le plan écologique, environnemental, il y avait quand même des choses qui me paraissaient pas très nettes, notamment suppression de talus, et puis au-delà, avec des problématiques aussi liées à l'eau, on peut voir ça aussi au bout. Donc ce sont des sujets où il faut quand même étudier l'ensemble des dossiers. C'est-à-dire que c'est pas se dire simplement ce sont des scieristes industriels, mais il faut prendre le temps de regarder ce que ça peut amener. Et est-ce que ça peut détruire aussi sur le plan écologique actuel?
Qu'est-ce que l'on fait avec les haies, là aussi? Parce que la Bretagne, quand même, a sacrément morflé.
Eh bien, les haies, on les protège. Il y a aussi un plan pour protéger nos haies.
Toutes les communes sont d'accord, par exemple?
Toutes les communes sont d'accord. En tout cas, sur l'agglomération, tous les maires sont en phase. Et on a justement le dispositif Braise Bocage pour renforcer aussi et créer de nouveaux talus. Voilà.
Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on est en train de retricoter ce qu'on a détricoté.
Oui, exactement. Mais justement, je pense que c'est aussi le sens de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on détruit des choses et puis après, il faut reprendre pour reconstruire. Et c'est sans fin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est Jean Jouzel qui disait qu'on est vraiment aujourd'hui en zone rouge. Et là, aujourd'hui, il ne faut rien lâcher, quoi. Et nous, les élus locaux, on doit vraiment avoir ça en tête systématiquement. C'est bien évidemment, il faut de l'activité économique. Donc, il faut aussi que nous puissions accueillir des industries, des entreprises, mais que nous soyons vigilants à ce que, sur le plan environnemental, que les choses soient faites. Et ensemble, avec aussi les chefs d'entreprise, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une conscience. Et cette conscience, elle est partout.
Vous voyez qu'il se passe des choses sur le territoire, ça nous fait le plus grand bien. On va partir dans les Pyrénées-Orientales, puis après en Haute-Garonne. Oh, Haute-Garonne, allons-y.
Avant de quitter la vie terrestre, si l'on fait les comptes honnêtement, les animaux malades de la peste sont plus nombreux que les bien portants.
toi pour beaucoup de tourments. Et pourtant, 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 chacun regrette l'horrible planète, la planète bleue. Planète bleue, oh. Trépasser sans demander son reste et sauter dans le premier taxi qui conduise par des voies célestes vers la plus suave des galaxies. La mort se passe ainsi. Notre humanité est ainsi faite que l'on regrette l'horrible planète, la planète bleue.
Et oui, on se fait plaisir. Donc Claude Nougaro, La Planète Bleue, ça tombe bien, on est en région Occitanie. Et là, nous allons partir donc dans les Pyrénées-Orientales avec un autre exemple. Bonjour André Trive.
Bonjour.
Alors André Trive, nous sommes chez vous, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, dans la commune de Haisnes. Alors donc, pas très loin, on a Argelès, on a Perpignan qui n'est pas loin non plus, Bages est à côté, Saint-Cyprien, parfait. Commune de 10 000 habitants ?
Environ, on est quasiment à 10 000 habitants.
Alors vous êtes un homme qui est aussi donc agriculteur, vous pratiquez l'agroécologie. Mais alors dites-nous, qu'est-ce que l'on fait, comme on dit, pour ralentir l'eau ? Parce que c'est le gros problème, c'est d'essayer donc de pouvoir retenir l'eau et non pas qu'elle parte très vite à la mer.
Bien entendu que ces dernières années, avec les problématiques de sécheresse, ça a été un sujet fondamental de ralentir l'eau. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut voir le territoire à une échelle au-delà de la zone urbaine et donc mettre en place des pratiques qui vont permettre de ralentir l'eau. Donc, ça veut dire l'infiltration dans le sol, la maintenir aussi dans des sols vivants, dans des sols où il y a de l'humus, parce que l'humus est une super éponge qui retient 10 fois son poids en eau. C'est de pouvoir aussi cultiver l'eau, parce que l'eau, ça se cultive par le végétal, par la mise en place, on va dire, de couverture végétale dans nos espaces urbains ou agricoles. Voilà. Il faut remettre un peu du vivant, de la biologie et, on va dire, du bon sens dans nos territoires.
Comment, André, vous avez fait donc pour arriver à persuader donc différentes personnes, d'abord de changer de regard? Parce que là, je vois qu'il y a des places de parking et puis il y a d'autres endroits, là, il n'y en a plus. Racontez-nous, là.
Tout simplement, changer le regard, ça va être par plusieurs méthodes. Je pense que déjà, dans un premier temps, où on se coupe un peu de l'humain aujourd'hui, c'est de remettre l'humain au centre de tout. Ça va être de la communication, déjà. Ouais. Ça va être amener de l'information pour que monsieur et madame tout le monde puissent l'acquérir, se mettre à niveau. Et puis, une fois qu'on a cette information, on peut appréhender des solutions, on peut envisager parfois des craintes et se dire, ces craintes, je vais les balayer d'un tour de bras parce que j'ai les solutions, parce que j'ai eu l'information en amont. Et donc ça va être hyper important. Et puis, il y a la notion de plaisir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on regarde vraiment que le négatif. Voilà. Il faut aller vraiment sur le positif et chaque action qu'on va mettre en place, il faut que ça redonne la banane à tout le monde.
Quel bonheur! Ce soleil, cet air, ce parfum, ces collines, ces arbres, ces oiseaux.
Alors là, par exemple, vous avez un exemple concret, là. Place de parking, qu'est-ce que vous avez fait?
Dans un premier temps, on est allé voir les citoyens en leur disant, ces places de parking, est-ce que pour vous c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce que c'est plutôt une verrue dans le paysage? Bien entendu, les riverains au plus proche nous ont bien dit que c'était invivable pour eux. D'ailleurs, on avait une pétition à l'époque qui avait été signée par un groupement de riverains pour nous demander d'enlever les places de parking. Donc on a sauté sur cette situation-là pour en faire notre projet qu'on voulait mettre en place depuis le début, c'était de la désimperméabilisation. Donc bien entendu, on n'a peut-être pas pris le côté eau directement, on a pris peut-être le côté plus embellissement, amélioration du cadre de vie, certains se sont mis à jardiner dans ces espaces, donc le côté alimentaire entre guillemets.
Là on voit deux personnes, il y en a une qui a un râteau, l'autre qui a une billette, voilà. Bon, ça, on va pas les déranger. Non, on va pas les déranger. Non mais ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, donc c'était des places de parking, et que là maintenant, presque jardin collectif, quoi.
Oui, complètement, c'est des jardins collectifs. D'accord. Voilà, tout à fait. Et puis, en leur amenant de la technicité agroécologique, ils se sont rendus compte que un jardin beaucoup plus agréable, du jardinage beaucoup plus agréable, avec moins d'efforts. On ne va pas lutter contre les moins herbes parce qu'on aura une couverture végétale qui va empêcher de les faire sortir, parce qu'on a densifié les cultures, beaucoup moins d'eau. Du coup, donc moins d'arrosage, et puis ça pousse beaucoup plus vite.
Vous grignotez, on va dire, mètre carré par mètre carré, quoi. C'est ça.
C'est ça, oui. Aujourd'hui, on gagne du pourcentage petit à petit. Il faut se dire qu'on sort de 60 ans de bétonisation à outrance, que le phénomène n'est pas encore endigué, et que donc, petit à petit, on va chercher citoyen par citoyen, mise à niveau par mise à niveau.
Et donc, de nouveau, l'eau s'infiltre, là. Est-ce que les gens sont contents? Donc, se l'approprient, là, c'est clair. Ils sont fiers.
Oui, ils sont fiers parce que du coup, c'était un projet quand même avant-gardiste dans les Pyrénées-Orientales. Donc ils sont acteurs d'un projet qui a du sens et ça change tout. Ça veut dire que quand on est fier de ce qu'on réalise, et on se dit « ouais, je suis acteur de mon village ». On n'entend plus après les hommes politiques pour faire quelque chose. Voilà, on se dit « moi, citoyen, je suis capable de créer l'environnement dans lequel je vis ». Et c'est ça qui est fantastique.
Et dans ces Pyrénées-Orientales qui ont été et qui continuent à être malmenées donc, par le climat, ce qui est assez formidable, c'est que vous leur dites « le manque de pluie n'est pas une fatalité ».
Complètement. Il faut se dire que malgré tout, on est dans une zone où on a encore beaucoup de production de matière organique. On en trouve dans les déchetteries, du brouillard de déchets verts, on a des fumiers de centre équestre. Tout ça, c'est de la richesse pour nos sols. C'est donc une possibilité de régénérer les sols, d'utiliser beaucoup moins d'eau à l'arrosage. Donc l'eau qu'on a encore disponible, on pourrait encore mieux le répartir à l'avenir. Donc, c'est-à-dire que même en période de sécheresse, un agriculteur, je prends le cas de ma spécialité, qui est vraiment l'agriculture, mais qui a des taux de matière organique assez exceptionnels. On parle déjà à partir de 4-5%. C'est possible d'y arriver assez rapidement. C'est ce qu'on avait à la sortie de guerre. Avec le bon sens paysan, nos anciens avaient réussi à voir ça. Mais on peut se dire, voilà, allez, on a de l'activité biologique, on a un bon taux de matière organique, et tout ce petit monde va faire qu'on va y consommer entre 5 et 10 fois moins d'eau. Mmh. Moi, je l'ai démontré pendant la période de sécheresse. Donc on peut se dire que même avec ce peu d'eau, on pourrait encore développer les zones agricoles, on pourrait réhydrater encore plus notre territoire, le reverdir, créer cette fameuse couverture végétale et cultiver l'eau. Ça voudrait dire qu'on pourrait refaire tomber plus d'eau à l'avenir.
Ça passe par la discussion, par la pédagogie, par la preuve et par l'action.
Complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de dire « démontre, montre ». Voilà, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'on soit dans l'action. Les grands discours, maintenant, ça suffit. Et on voit bien là où ça nous a menés. On entend des discours toutes les 5 minutes à la télé et c'est pas pour autant que le chemin public il avance. Donc, on est dans l'action et puis par les preuves, on peut amener que ce soit des citoyennes, des professions agricoles, mais même, j'ai envie de dire, le monde entrepreneurial, le monde associatif, on peut l'amener dans le mouvement et c'est ce qu'il faut faire dès aujourd'hui. Donc beaucoup d'énergie, mais on va être plusieurs et dans quelques temps, on ira beaucoup plus vite.
Bon, merci André Trieve.
Merci à vous.
Bonjour à vous Thierry Suhaud.
Bonjour Denis.
Alors merci de nous accueillir donc chez vous. Donc on est à Portet-sur-Garonne, on est au sud de Toulouse, 10 000 habitants. Et ce qui nous intéresse, c'est votre gestion de l'eau. Là, évidemment, on n'est pas loin d'un grand centre commercial, mais on va aller dans le quartier qui s'appelle le quartier Renoir, là où nous sommes. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait donc avec l'eau? Ça a été quoi l'idée?
Juste par souci quand même de précision, nous ne sommes pas loin de la Garonne non plus,
oui.
Portet-sur-Garonne. Ce quartier Renoir, c'est un quartier qui a été régulièrement submergé lors de fortes pluies, dans lequel les habitants avaient les pieds dans l'eau, leur cave inondée, leur garage inondé. On a même, je crois, failli noyer une personne dans ce quartier. Il s'agissait pour nous de trouver une solution de traitement des eaux pluviales et nous avons choisi une solution qui n'a plus rien à voir avec les solutions classiques des aménageurs que sont les élus locaux.
C'est-à-dire qu'en général, ça veut dire que l'on va agrandir les tuyaux, faire passer plus de flotte, etc. Donc...
Et ça n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons choisi de déconnecter ce quartier du réseau tout tuyau et de traiter finalement sur ce bassin, ce petit bassin, l'ensemble des eaux pluviales en profitant de ce que la nature et l'urbanisation nous avaient permis de conserver malgré tout, des espaces verts.
D'accord.
Et donc ces espaces sont devenus des espaces de réception des eaux pluviales.
Tiens, il pleut flic-flac, flic-flac, 9h, il pleut flic-flac, flic-flac, 10h, il pleut flic-flac, flic-flac, 11h, l'heure du bouillon d'11h, tiens, minuit sans flic ni flac, minuit sans flac ni flic, minuit la pluie est finie, ma chanson. Aussi.
C'est ce que l'on voit là, là par voilà. Exemple, on dirait un bassin en fait, non, mais ça a été très aménagé, si j'étais un crapaud à mon avis je pourrais peut-être effectivement y arriver, et on voit plus de bouche d'égout là.
C'est ça, ça donne un drôle d'aspect à notre quartier, n'est-ce pas, puisque nous avons ces bacs de rétention,
ouais.
Qui font à peu près ma hauteur, hein, on le
c'est
voit,
ça.
Et puis à côté de ça quelques nous, ouais. Quelques espaces, on ne le voit plus, qui ont été décroutés et qui sont végétalisés, et puis ces curieux fossés dans la voirie,
oui.
Puisque donc sur la voirie l'eau ruisselle, elle se retrouve dans ces fossés qui envoient vers les bacs de rétention et les noues l'ensemble des eaux pluviales qui sont récupérées. Et nous n'avons donc plus...
Donc c'est un peu c'est ce qu'on appelle ces gendarmes couchés, en quelque sorte, qui vont distribuer cette eau-là sur
voilà,
la bonne direction.
Ce sont des gendarmes couchés, mais inversés, ce sont
oui.
Des trous, des creux, et donc c'est ça qui va distribuer vers les fossés que nous avons créés, vers les bacs de rétention, l'ensemble des eaux pluviales. 505 mètres cubes sont susceptibles d'être traités dans ce quartier lors d'incidents, donc on appelle ça ventennal, puisque tous les 20 ans, on a des précipitations qui autrefois submergeaient le quartier Renoir.
Alors on a combien, on va dire, de petits lieux comme ça, qui peuvent être d'ailleurs aussi des lieux sympas, hein, on peut s'y poser quand il n'y a pas d'eau. Quoi.
Au-delà du bac, du fossé qui est devant nous, donc on a trois grands fossés de rétention, et puis ensuite on a des petites noues qui permettent effectivement d'alimenter. Mais ce qui est important, c'est que chacun retient, permet d'infiltrer, et puis quand ça déborde, ça verse sur le suivant, puisqu'encore une fois, il faut qu'on arrive à collecter 505 mètres cubes. Et ça n'a l'air de rien. On n'a pas l'impression d'ailleurs qu'on les collecte en regardant cette topographie.
Ouais.
Mais on les collecte véritablement sur ce quartier.
Ce qui est intéressant, Thierry Suau, c'est que là, vous changez, on va dire, complètement le schéma. Bon, on a eu un schéma d'aménagement, un schéma technique. Et là, vous vous dites, eh ben, on va faire avec la nature, mais à condition quand même d'avoir le vase qui va permettre de recevoir cette eau et de s'infiltrer.
Bon, d'abord, je crois que la priorité, c'est de se dire... que la solution doit être adaptée à l'environnement
ouais.
Et à la réalité. Deuxième chose, il faut que les citoyens participent à l'initiative et à l'élan. Quand on explique aux gens qu'on va creuser leur quartier, qu'on va inverser les bosses de la voirie qui vont devenir des creux, que l'on va changer la collecte des eaux de pluie, ils ont un petit peu de mal à adhérer et ils craignent d'être à nouveau inondés.
Hein,
donc il faut en discuter avec eux, l'expliquer. C'est une forme de pari collectif que nous avons joué là. Et puis effectivement, c'est une inversion de réflexion ou de façon de construire la ville. On a trop souvent, mais dans beaucoup d'activités humaines finalement, conféré aux tuyaux ce pouvoir de supprimer les problèmes ou de traiter les sujets.
Et vous gardez l'eau, c'est ça, c'est très intéressant,
voilà.
Parce que pendant des années, il fallait que l'eau file le plus vite possible vers la Garonne, puis après le plus vite possible vers le fleuve. Là, c'est l'inverse, vous la retenez.
Et là, ce qui est fort, c'est qu'on la retient. On a donc l'effet aussi îlot de fraîcheur, ce qui est important. Et puis, on arrive effectivement à changer complètement le rapport à l'eau. Parce que je crois aussi que quand on discute avec nos habitants, ce qui est intéressant, à porter sur Garonne, peut-être qu'on a une responsabilité plus particulière vis-à-vis du fleuve et de la Garonne, c'est qu'on veut retenir cette eau pour nous, mais aussi pour ne plus aller polluer le fleuve, parce qu'il l'eau ramasse quand elle ruisselle. Et puis, on a un message qui est totalement différent sur la construction de la ville, encore une fois, c'est je vis, j'abîme en quelque sorte, mais je travaille à réparer aussi là où je vis. Et donc, je n'envoie plus vers le fleuve et je ne me débarrasse plus du problème, mais je le traite là où j'habite et là où je vis. Et on va tenter d'exporter ce sujet sur d'autres quartiers. On a commencé sur Clégaronne, qui est juste derrière là-bas. Et puis ensuite, on va essayer sur le coin de la mairie. Bref, nous continuons.
Et donc, évidemment, ce travail s'effectue aussi avec l'aide de l'agence de l'eau Adour-Garonne et puis aussi Rhône-Méditerranée-Corse en ce qui concernait donc les Pyrénées orientales. Alors quand même, la Haute-Garonne fait pas mal sur l'eau et aussi avec l'établissement public Garonne-Gascogne et affluent des Pyrénées, parce que c'est quand même eux qui assurent le débit, l'étiage de la Garonne. Et ouais, et ça donc, ça, c'est une grande mécanique territoriale. Voilà, donc, tenez aussi, puisqu'on a parlé aussi d'hydronomie, on va
pourrait dire. Vous avez un ouvrage de Marlène Vissa qui s'appelle « Cultiver l'eau verte pour restaurer l'eau bleue et les agro-systèmes ». C'est aux éditions du Bord de l'eau. Et puis vient de sortir aussi « Eau douce » de Bill François et Arthus Bertrand pour les photos chez Tana Éditions. Ça, c'est mieux comprendre, on va dire, ce monde fragile de l'eau qui coule sous nos yeux. Donc prenez-en soin et en tout cas, soyez heureux. Mais quand même, un grand merci donc auparavant à notre réalisatrice Anaïs Reynard qui a été parfaite, à Rémi Sissiaga qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanès. La semaine prochaine, je vous emmènerai à la fois dans le Lot mais aussi en Corrèze avec Christian Signol. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.